RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Et oui, l'Intégral Tour joue les prolongations aujourd'hui. Habituellement, nous nous arrêtons à 18h, mais figurez-vous que le peloton du Tour de France, lui, a décidé aujourd'hui de s'arrêter un peu plus tard, puisque l'arrivée de cette 21e et dernière étape sera jugée tout à l'heure aux alentours du 19h30. On a pris pas mal de retard. Le peloton qui approche de l'entrée dans la capitale, on est à 70 km de l'entrée, à 70 km de la ligne d'arrivée et à 10 km de l'entrée dans Paris. Georges Quirino sur la moto. Est-ce que la course a débuté, Georges?
Voilà, la course n'a pas encore débuté. On voit le peloton qui est groupé toujours pour l'instant avec plusieurs équipes représentées à l'avant. On n'est pas encore dans une organisation pour une attaque ou pour un sprint. On est encore loin de l'arrivée dans la traversée de Suresnes pour l'instant. Pour les coureurs qui voient au loin le quartier de la Défense, qui vont arriver dans quelques instants dans le bois de Boulogne pour rentrer enfin dans la capitale française, dans Paris, pour prendre la ville de la Grande Armée dans quelques instants pour rejoindre les Champs-Élysées.
Le bois de Boulogne, Jérôme, que tu connais bien? Non, c'est pas toi qui connais ça, non. Ah, Fred, voyons,
c'est Fred qui connaît par cœur. Il croise régulièrement dans ce même bois Cyril aussi. C'est pas le même sport, mais c'est un endroit aussi mythique de Paris.
Chacun trouve le son peloton, bonheur là où il l'entend,
le
Jérôme.
Le long de la Seine, et pendant ce temps-là, Pierre-Yves Leroux est en compagnie du ministre des Sports, Monsieur Caner, je crois.
Exactement, Christophe. Nous sommes derrière la tribune présidentielle où le ministre des Sports, Patrick Caner, va pouvoir assister dans quelques minutes à l'entrée du peloton. Le Tour de France, pour vous, c'est un moment important, festif, ça représente l'été, la fête populaire aussi.
Une immense fête populaire, après une autre grande fête qui a été l'Euro, un Euro formidablement réussi, notamment en termes de sécurité, vous le savez. Et donc là, le Tour de France se termine aujourd'hui dans d'excellentes conditions, y compris climatiques. Je pense que les 10 à 15 millions de spectateurs qui ont été sur les 3500 km de course ont dû être parfaitement satisfaits.
L'actualité sportive du jour, c'est aussi cette décision par rapport aux athlètes russes, alors qu'ils ne participeront pas au JO, mais en revanche, tous les autres sportifs, on pense par exemple à Zakharine, qui est le seul russe dans le peloton, qui auront la possibilité finalement d'être aux Jeux Olympiques. Les réactions sont assez fortes. On a vu celle de Bernard Amsalem il y a quelques instants. Quelle est la vôtre?
Alors le CIO a pris une décision qui ne contredit pas celle du tribunal arbitral du sport il y a quelques jours, qui interdit aux athlètes d'athlétisme de participer aux JO. Mais il y a 27 autres fédérations olympiques d'été, et il est demandé finalement à ces 27 autres fédérations de faire le ménage, permettez-moi l'expression, à partir de critères extrêmement précis. Elles ont 12 jours pour examiner la situation d'environ 400 athlètes pour savoir si oui ou non ils peuvent participer aux JO de Rio. C'est une course contre la montre qui va s'engager. Une décision qui peut paraître un peu paradoxale au regard de celle qui a été prise pour l'athlétisme, mais en même temps, si j'ai bien compris l'argumentaire du CIO, il n'y a pas de présomption d'innocence. Par contre, on ne peut pas avoir de sanctions collectives systématiques. Chaque cas peut être défendu par soi-même devant la fédération compétente.
C'est une décision qui vous embête? Vous auriez préféré quelque chose de plus ferme?
Vous savez, la fermeté, elle va venir, elle est en train de venir. Je pense que plus personne ne supporte aujourd'hui dans le monde un sport qui ne soit pas propre. Nous avons dans les fédérations russes manifestement des pratiques qui ont été condamnées, qui sont peut-être encore aujourd'hui condamnables. Nous le verrons bien dans les semaines et mois à venir. Simplement, ce que veulent aujourd'hui nos concitoyens, ce que veulent tous les amoureux du sport, c'est un sport propre, un sport où le dopage n'existe plus. C'est une course contre la montre que nous devons engager avec beaucoup de fermeté, mais avec beaucoup aussi de discernement. Le CIO a pris une mesure qui tient compte de la proximité de date des JO dans 12 jours. Voilà, moi je n'ai pas à faire de commentaires sur le fond en la matière. Par contre, ce que j'espère, c'est que les fédérations olympiques pourront vraiment très vite faire le ménage dans les 12 jours qui leur restent avec les décisions du CIO qui ont été prises aujourd'hui.
Il y a eu de grands contrôles sur le Tour de France aussi au niveau dopage mécanique avec des caméras, etc. Il n'y a pas eu de cas de dopage qui sont sortis. Vous êtes plutôt satisfait?
Tolérance zéro en matière de dopage. Il faut 100% de précaution, 100% de technique nouvelle, y compris ces caméras thermiques. Nous savons bien que les dopeurs vont parfois plus vite que les anti-dopeurs. C'est souvent le cas, mais il faut montrer une détermination totale, et notamment au niveau des États. Je crois que la France montre elle-même qu'elle est totalement forte en la matière. Nous avons adapté notre code national antidopage en fonction du code mondial antidopage il y a quelques mois. J'en suis très heureux. La France est un exemple en la matière et j'espère que cet exemple sera suivi par toutes les nations sportives de la planète.
Un dernier mot, Patrick Kanner, après l'arrivée du Tour de France tout à l'heure et la victoire de Chris Froome, on connaîtra le nom du porte-drapeau pour les JO et pour l'équipe de France. On ne va pas le dévoiler tout de suite, mais c'est quelque chose d'important, on l'imagine, de désigner ce nom, parce qu'on sait que c'est quelque chose de fort pour la première image, pour les JO et pour l'équipe de France.
Bien sûr, c'est un symbole. Parker, Iner, Iner, Parker. Bon, j'ai entendu dire des choses, j'ai vu des choses aujourd'hui, dans la presse, y compris spécialisée. Écoutez, que la surprise vienne, quoi qu'il arrive, ce sera un immense champion qui portera le drapeau tricolore. Et je pense que c'est ça la France qu'on aime. C'est la France rassemblée autour de ses champions. C'est une France unie. Et en cette période très troublée pour notre pays, je pense que le sport véhicule de très belles valeurs.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. Et bonne fin d'après-midi avec les champions qui ont parcouru cette grande route autour de la France. Merci beaucoup.
Merci, Pierre-Yves, donc, pour cette interview du ministre qui n'a pas voulu nous révéler le nom du porte-drapeau, même s'il n'y a pas beaucoup de suspense. Et que d'ailleurs, il sera révélé tout à l'heure. Oui. Et Teddy Riner, paraît-il, est déjà dans le coin. Hein. On essaye de le cacher.
Il habite pas loin. Il
pas
est
facile de le cacher, le costaud.
Il habite pas loin. La course s'est passée pas loin de Levallois, son club de Levallois. C'est l'un des emblèmes de la ville des Hauts-de-Seine. C'est peut-être pour cela qu'il est passé voir le tour, Teddy Riner, le grand judoka français, évidemment. Si c'était Teddy Riner, pas sûr quand même qu'il emprunte un vélo pour venir, encore que c'est tout plat depuis Levallois. Teddy Riner qui aurait bien du mal à escalader l'école.
Voilà, il a d'autres qualités, notre champion olympique de judo, qui sera donc désigné tout à l'heure porte-drapeau de la délégation française pour les Jeux de Rio, et il entrera devant la délégation avec le drapeau français. Georges, on s'approche de Paris, tu vois la Tour Eiffel de là où tu te trouves.
Je vois la Tour Eiffel. Je peux la voir effectivement si je me lève en étant. En tout cas, je vois bien le quartier de la Défense. On vient de passer juste en dessous des tours de la Défense. Virage à gauche pour les coureurs qui passent maintenant le pont de Suresne et qui traversent donc la Seine. On a vu le maillot jaune, Christopher Froome, se replacer dans les premières positions pour arriver dans Paris dans les meilleures dispositions pour arriver avec ce maillot jaune dans la capitale. Est donc à l'arrivée parce que les coureurs sont dans le bois de Boulogne désormais, les coureurs du Tour de France qui viennent d'arriver à Paris, donc ils sont en train d'arriver, ils vont passer ensuite par la porte maillot là où habituellement est présenté le Tour de France. En tous les cas, voilà, tous les coureurs de l'équipe Sky, ils sont juste derrière nous, on le voit étiré en file indienne ce peloton sur cette chaussée très large. Tous les coureurs de la formation Sky se sont positionnés à l'avant, les 8 coureurs, Christopher Froome en 2e position, et derrière Christopher Froome, il y a l'ensemble de la formation AG2R, la mondiale, qui est là autour de Romain Bardet, le deuxième du classement général, donc au moment où nous arrivons ici à Paris.
Merci Georges. Oui, il y a des traditions qui ne se perdent pas sur la route du Tour de France. Toute la formation Sky qui emmène le leader de ce Tour de France, et derrière eux, eh bien, les coéquipiers de Romain Bardet. Et c'est comme cela, Jérôme, qu'on va entrer dans Paris dans quelques kilomètres maintenant, dans quelques minutes.
Ouais, c'est ça. C'est la tradition est respectée. Les codes du Tour de France sont respectés. On a laissé prendre position l'équipe Sky du maillot jaune, Chris Froome en tête, et puis on va aller comme ça jusqu'au passage sur les Champs, le premier passage où là la course va réellement démarrer, et on roule un peu plus vite que d'habitude. C'est l'entrée dans Paris qui fait accélérer les coureurs. Vous savez que dans la plupart des coureurs du peloton, on n'est pas très fan de ce nouvel horaire, hein, parce que ça fait arriver plus tard, et donc oui, la fête est plus courte.
On arrive très tard dans la soirée, quoi.
On préférait avant, ouais, oui, c'est oui. vrai.
Toi particulièrement.
Hein. Moi, c'était ouais. Moi, j'étais vraiment.
Arriver
ah ouais, j'aurais
14
presque
heures.
Pu monter une pétition pour arriver le matin, moi.
Ah, alors, messieurs, que nous rejoint dans
non,
ce studio.
Non. Ce qu'il faut bien souligner quand même, c'est qu'au moment où nous parlons de l'après-course, hein, oui. et de la fête qui est plus courte ces dernières années, eh ben on a celui qui était non partant ce matin.
Il a abandonné quand même au départ de la dernière étape.
Pourquoi ? Ben justement, Jérôme en parlait, il y a certains coureurs qui sont un peu mécontents des nouveaux horaires. Parmi eux, eh ben c'est là.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
L'intégral Tour de France au moment où le peloton de ce Tour de France 2016 entre dans Paris, la capitale évidemment, là où s'achève le Tour de France depuis de si nombreuses années. On va tout de suite voir ce qu'il en est en tête de peloton avec Georges Quirino sur la moto RMC qui ne pourra faire que deux passages sur les Champs-Élysées. Donc il faut en profiter, Georges, en mettre plein les yeux.
Oui, le long de la Seine sur notre droite, le musée d'Orsay et les jardins des Tuileries à la gauche du peloton, le musée du Louvre. Maintenant, on ne va pas passer tout de suite sous le tunnel des Tuileries, on va d'abord passer au milieu du Louvre, non loin de la pyramide, de verre pour les... du Tour de France avec la formation Sky qui emmène le maillot jaune dans la roue. C'est la tradition d'emmener le vainqueur du Tour ici en premier. Quel monde Christophe, on est toujours impressionné chaque année. Jérôme parlait tout à l'heure d'un stade de football, c'est bien ça. Il y a plusieurs rangées de spectateurs qui sont là avec des drapeaux du monde entier, avec des smartphones qui sont de sortie un peu partout, des perches à selfie. Il y a de tout, le monde entier est là ici avec les coureurs qui passent maintenant devant la pyramide du Louvre, qui vont ensuite basculer à gauche pour aller prendre la rue de Rivoli où on se trouve actuellement. Christophe, la largeur de la route est énorme, on peut passer à 5-6 voitures et c'est barriéré là où habituellement il y a beaucoup de bouchons. La route est ouverte pour les coureurs du Tour de France. Le virage des Norvégiens que l'on dépasse au moment où on arrive devant les Tuileries, énormément de Norvégiens, 10, 15, 20, 30, 40 drapeaux Norvégiens, 5, 6, 7, 8, 9 rangées de spectateurs pour le peloton qui voit au loin maintenant cette flamme rouge qui longe les Tuileries, qu'il y a sur la gauche maintenant, les drapeaux qui sont là, qui y a énormément de drapeaux de la Grande-Bretagne, Christophe, Union Jack, des drapeaux de la formation Sky pour célébrer encore une fois Christopher Froome qui arrive maintenant sur cette rue de Rivoli. On va passer une première fois sous la flamme rouge qui n'est pas la flamme rouge, et puis la place de la Concorde dans quelques instants pour les coureurs.
Voilà, énormément de monde dans les rues de Paris, même si par endroits les barrières empêchent les gens d'avancer. En tous les cas, Chris Froome a le sourire, il va dans quelques instants franchir la ligne en tête. Est-ce que ça va
oui,
se faire?
Oui, c'est la tradition, Christopher Froome qui va se rapprocher de la place de la Concorde avec un coureur dans sa roue, Tony Galopin, le coureur français qui est aux premières loges.
Tony va-t-il essayer de passer devant Christopher Froome? On va poser la question à son épouse Marion Rousse qui nous fait le plaisir d'être avec nous comme souvent sur les routes du Tour. Ça va Marion?
Oui, ça va.
Est-ce que vous vous êtes lancé à Paris? Tu lui as demandé de franchir la ligne en premier devant le maillot jaune?
Ah non, ce serait quand même un peu malvenu. Hein. Non, je pense que Tony justement il est déjà peut-être en place avec très certainement Greipel pas très loin, mais non, on va laisser Christopher Froome, sinon moi-même j'aurais honte.
Ah oui, il y a des traditions qu'on respecte dans le vélo. Hein. Alors que la patrouille de France également va faire son apparition sur les Champs-Élysées. Tony, a-t-il des ambitions sur l'étape d'aujourd'hui ou va-t-il travailler pour son sprinter André Greipel qui est, on le rappelle, toujours fini hein, sur le route de ce tour?
Exactement, non, on va tout rouler, on va vraiment rouler pour André Greipel. C'est vrai qu'il est toujours à la recherche d'un premier succès sur ce Tour de France, donc on est concentré à 100% autour du sprinter allemand.
Ah oui, évidemment, le sprinter et tous les sprinters qui vont s'en donner à cœur joie tout à l'heure. Bon, ça fait plaisir de voir arriver le peloton, pas trop fatigué Marion par ces 3 semaines de course, 3 semaines de commentaires pour toi. On rappelle que tu bosses pour Eurosport et également pour Antargaz. Et puis la combativité, tu as été combatif sur ce tour.
Oui, c'est vrai. Je peux peut-être avoir même un petit trophée hein, ce soir. Non, c'est vrai que ça a été un tour usant, mais honnêtement, voilà, je suis très contente de pouvoir y travailler. Et puis c'est toujours un bonheur hein, d'être sur les Champs-Élysées, que ce soit pour tout l'encadrement, mais également pour les coureurs. Je peux vous dire que ce matin, du côté des bus, on était ravis d'en terminer.
Et oui, alors ce soir, grosse fiesta prévue. Comment ça va se passer, Marion? Raconte-nous les dessous.
Je sais pas si je peux tout dire.
Alors, Eros Rastafometo qui était avec nous tout à l'heure nous a dit qu'il y aurait une grosse fête au Regina.
La pizzeria Regina ouais, mais je pense qu'il y a autre chose qui est prévu.
Oula. Alors qu'effectivement, on est attaqué. Non, c'est la patrouille de France.
La patrouille de France, c'est magnifique le spectacle évidemment. Sachez pour votre information que le peloton est en train de franchir la ligne d'arrivée sur les Champs-Élysées pour la première fois. Il y a 8 tours de circuit à enquiller, désormais 54 km à parcourir. Et ce n'est pas Christopher Froome qui est passé en tête sur la ligne d'arrivée, mais un coureur détaché, échappé. Lippe, sourire aux lèvres, grande banane sur le visage. C'est pour Ito Rodriguez, Joaquin Rodriguez, le catalan vétéran de l'équipe Katusha, qui a annoncé lors de la première journée en Andorre qu'il allait tirer sa révérence, prendre sa retraite à la fin de la saison. Le peloton lui a fait ce cadeau de passer en tête tout seul sur la plus belle avenue du monde. Excuse-moi Marion.
Jérôme.
Non mais ça c'est, tout à l'heure on parlait de la comparaison entre Lance Armstrong et Chris Froome. Ça c'est le genre
Armstrong
de choses
qu'on n'aurait jamais fait.
On avait nous demandé les coureurs français à l'époque où Stéphane Goubert effectuait son dernier Tour de France à passer sur la ligne. Ben, notre cher américain avait dit non, le patron c'est moi qui passe en tête sur la ligne. Donc vous voyez bien messieurs que Froome n'est pas Armstrong.
Et oui, il est différent tout de même. Marion, ton regard sur Christopher Froome qui va donc remporter son troisième Tour de France. Est-ce que c'est un champion qui t'enthousiasme au même titre que les grands champions qui ont marqué l'histoire du Tour de France?
Ouais, je pense que sur ce Tour de France, voilà, on n'a rien à dire. Hein. Je pense qu'il était tout simplement le plus fort, mais également son équipe. Quand on gagne avec plus de 4 minutes d'avance sur son dauphin, voilà, ça montre vraiment l'homme qu'il a été sur ce tour, durant tout le Tour de France. Après, honnêtement, moi, j'ai rien contre lui.
Tu fais rêver ou non?
Rêver, c'est un bien grand mot, parce que c'est vrai qu'il est toujours rivé sur ses capteurs de puissance. Donc nous, en tant que spectateurs, on aime bien voir des garçons comme Alberto Contador qui essayent d'attaquer de loin. Mais voilà, on ne peut pas rien reprocher à Christopher Froome qui fait le job tout simplement. Et la Team Sky, c'est clair qu'elles sont aussi très certainement en avance sur d'autres formations. Je pense notamment au jour où, lors du contre-la-montre en bosse à Sallanches, il avait un vélo de chrono qui a étonné tout le monde. Sauf que le vélo de chrono, il ne pesait pas 9 kilos comme les autres. Il avait exactement le même poids que son vélo de route. Et tout ça, ben voilà, c'est des exercices qu'on fait en avant. Et cette formation Sky, eh bien,
les gains marginaux, cher Dave Bradford.
Eh oui.
C'est comme ça qu'on gagne le Tour de France aujourd'hui.
Exactement.
Avec des gains marginaux, même si quand même il a montré beaucoup plus de choses que sur ses deux premières victoires dans le Tour de France.
Oui, puis finalement, c'est pas dans les ascensions qu'il a pris énormément de temps, c'est plutôt voilà, dans les bordures, là où on ne l'attendait pas forcément, dans une descente qui restera, je pense, dans les mémoires de tout le monde. Donc je pense qu'il a fait le job, il a été cherché à la pédale tout simplement, il n'y a rien à dire là-dessus.
Merci Marion,
merci
bonne
à vous.
Fin de tour. Bon, il ne reste plus grand-chose, une petite émission quand même ce soir. Et puis,
la fête.
Avec Tony ce soir, il est en état de faire la fête après 3 semaines de Tour de France. Dans quel état il est?
Il m'a déjà prévenu qu'il n'allait pas me faire danser toute la nuit. Quand même.
On le comprend. Merci Marion.
Merci Télécast, à vous. Bonne
fin de tour. Un plaisir de te voir une nouvelle fois sur ce Tour de France et à l'année prochaine évidemment pour vivre d'autres émotions. On l'espère avec pourquoi pas un Tony qui remportera une étape là cette année. C'est vrai que ça a été un peu plus compliqué pour Tony Gallopin. Allez, on retourne sur la course Fred puisque la course est lancée désormais. Nous sommes sur les Champs-Élysées et c'est enfin parti.
Oui, avec les premiers échappés de cette 21e étape, effectivement, les attaques ont succédé au premier passage sur la ligne. Un groupe d'une dizaine de coureurs est en train de se détacher dans la première descente des Champs-Élysées. On aperçoit notamment Brice Feillu, me semble-t-il, le coureur de l'équipe Fortuneo Vital Concept. Alexis Goujard est également là. Il me semble que Rui Costa fait partie des échappés. Nathanaël Béran peut-être, à moins que ce soit Daniel Tecklaymanot. En tout cas, il y a un érythréen de l'équipe Dimension Data. Le peloton toujours emmené par les Sky. Alex Howes, l'américain de l'équipe Cannondale, est également là. Et Purito Rodriguez, lui, est rentré à l'arrière du peloton. Rodriguez qui, on vous le rappelle, a eu le privilège de passer la ligne d'arrivée en tête, isolé, parce qu'il tirera sa révérence à la fin de la saison. Également échappé, on détaillera le groupe dans quelques instants, l'allemand Markus Burgart de l'équipe BMC. On tente, comme c'est le cas sur chaque édition de la dernière étape du Tour de France, on tente de fausser, de tromper la vigilance du peloton. Notez donc la présence dans ce groupe de tête des deux Français, Brice Feillu et Jérémy Roy. Daniel Tecklaymanot est là, également présent Alexis Goujard, Markus Burgart et Rui Costa, l'ancien champion du monde portugais. Ce groupe de tête compte désormais une quinzaine de secondes d'avance sur le peloton qui ne réagit pas alors que l'on passe sur la place de la Concorde avec l'obélisque qui domine les coureurs.
Allez, on va en profiter justement pour parier puisque la course est maintenant débutée à 50 km de l'arrivée finale de cette édition du Tour de France. C'est parti.
PMU.fr, Paris Sportif, Paris Olympique, Poker.
Et on accueille Benji pour la dernière fois. Salut Benji.
Salut messieurs.
Bon, on va parier sur la dernière étape, donc dernière victoire. On sait que Cyril Guimard a quasiment course gagnée, hein, maillot jaune, et à moins d'un accident mécanique, d'une chute dans la descente des Champs-Élysées, on voit mal comment il pourrait être battu. Hein.
Effectivement, Cyril Guimard, si on le rappelle, a joué Brian Cocard, mais il a quand même une avance confortable sur sur nous autres, Christophe, donc ça va être compliqué de le rattraper. Le grand favori pour gagner l'étape, c'est Marcel Kittel. Les bookmakers ont bien compris que c'était devenu une habitude de voir un sprinter allemand gagner sur les Champs-Élysées. Du coup, Kittel est à 2. Et derrière, c'est Christophe qui est co-favori avec Greipel à 4,70.
Messieurs, un sprinter tout à l'heure vainqueur. Jérôme, ça, la tradition ne va pas se perdre aujourd'hui.
Non, c'est sûr. On va arriver très probablement au sprint. D'autant que on a du mal à désigner qui peut éventuellement contrecarrer les plans des équipes de sprinters. Aujourd'hui, ça va être tellement emmené très vite, il y a tellement de sprinteurs qui n'ont pas gagné et qui ont besoin de se racheter sur les champs aujourd'hui qu'effectivement on risque d'arriver tout le monde groupé à ce petit jeu. Moi je continue de parier sur Brian Coquard.
Voilà, Brian Coquard, ton petit poulain, tu l'as vu je crois ce matin ou hier soir.
Je l'ai eu au téléphone ce matin, on a établi le plan, si tout marche sur des roulettes on ne devrait pas être battu.
Le plan est établi, tu nous en diras un peu plus tout à l'heure, hein, mais il ne faut pas le dire parce qu'on ne sait jamais si Greipel, Kittel ou les autres écoutent, ils pourraient être au courant du plan.
Et c'est sûr qu'ils nous écoutent, c'est obligé.
Cyril, ton vainqueur aujourd'hui.
Eh bien, moi je marque à la culotte Jérôme. Je veux absolument ne pas perdre le moindre copec sur cette arrivée. Donc j'ai joué Coquard également.
Ok, Brian Coquard pour Cyril également. Fred.
Moi je vois bien John Degenkolb, le sprinter allemand qui est beaucoup plus qu'un sprinter, l'ancien vainqueur de Milan-San Remo, de Paris-Roubaix. Ce serait bien pour lui bien sûr, et ce serait bien pour l'histoire, parce qu'on rappelle que John Degenkolb, comme d'autres coureurs de la formation Giant Alpecin, a été renversé en début d'année sur les routes espagnoles, et il a passé de longs mois en convalescence. Il rame pour retrouver son meilleur niveau, John Degenkolb. Mais on l'a vu quand même lors de l'arrivée à Berne, une étape remportée par Sagan, on a vu John Degenkolb renaître quelque peu et prendre la quatrième place. Ce serait beau que le coureur allemand de Giant reprenne sa place dans le Gotha du peloton mondial, et quel plus bel endroit que les Champs-Élysées pour renaître à la face du monde.
Très bien, merci Benji, on te retrouve tout à l'heure pour débriefer cette étape, si on a le temps évidemment, parce que tout à l'heure on aura le protocole, on aura les conférences de presse et on aura plein d'images à se mettre plein les yeux. Merci Benji.
PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Au moment où le peloton de ce Tour de France passe pour la deuxième fois sur la ligne d'arrivée ici, Fred.
47 km à parcourir avec le rythme qui s'est considérablement haussé. Ça y est, la course est lancée pour de bon sur les Champs-Élysées avec un groupe de 8 coureurs qui s'est échappé. On va le détailler avec Georges.
Allez, Georges Quirino sur la moto. Il ne reste plus qu'un tour à parcourir pour la moto du Tour de France. Ensuite, ce sera le garage jusqu'à l'année prochaine. Georges, raconte-nous ce qui se passe devant.
Avec le groupe de 8, avec le français Jérémy Roy qui assure le relais, Alexis Goujard, l'autre tricolore de la formation AG2R La Mondiale qui est là dans sa roue également. On voit le peloton au bout qui est à une centaine, 150 mètres environ sur toute la largeur de la route, qui peut voir ce groupe de tête sur ces Champs-Élysées, dans la montée des Champs-Élysées, avec l'Arc de Triomphe face à nous, et plusieurs rangées de spectateurs qui encouragent les coureurs. Il y a beaucoup de supporters colombiens, beaucoup de supporters britanniques, Uruguay, on va regarder les drapeaux Italie, Espagne, Pays de Galles, les drapeaux Érythrée à droite, Luxembourg également, la France évidemment, les drapeaux du Portugal, de la Colombie à nouveau, vous voyez les Champs-Élysées qui accueillent ce peloton définitivement international et l'échappée derrière nous.
Merci Georges. Cyril a l'air de s'énerver. Pourquoi s'énerve-t-il Cyril Guimard? Parce que les coureurs de la formation Sky roulent derrière les échappés?
Non, pas du tout. Non, mon micro était branché ce coup-ci. Hein.
Oui, c'est vrai. Il avait laissé allumé depuis tout à l'heure.
C'est bien d'avoir le réflexe. Non, c'est parce que je vois pas actuellement pourquoi Direct Energy vient faire le tempo en tête de peloton alors qu'il reste 46 km ou 45 km à parcourir. C'est un peu tôt de mettre déjà des équipiers à la bord, ces mêmes équipiers qu'on aura besoin dans les 7-8 derniers kilomètres.
Et oui, ce sont les coéquipiers de Brian Coquard qui sont,
oui,
sont devant.
Avec une drôle d'image, on rappelle l'échappée en ce moment composée de Brice Feillu, d'Alexis Goujard, de Jérémy Roy, de Daniel Teclaïmanot, de Rui Costa, de Marcus Bourgart et de l'Américain Lawson Craddock, les coureurs qui vont une nouvelle fois passer autour de l'Arc de Triomphe. L'ensemble du peloton est sur les pavés, sur la chaussée principale des Champs-Élysées, et sur la droite, dans le caniveau, on voit un coureur de l'équipe Astana, c'est Vincenzo Nibali, qui veut prendre la bande lisse et non pas les pavés des Champs-Élysées, et qui du coup est obligé de faire des écarts. Pourquoi ? Pour éviter les policiers qui sont là postés pour assurer la sécurité et pour s'assurer qu'aucun spectateur ne franchit les barrières. Vincenzo Nibali qui préfère emprunter cette bande beaucoup mieux roulante que les pavés. Ça ne va pas durer normalement, il vient de réintégrer le corps du peloton et il est à nouveau sur les pavés dans la portion descendante des Champs.
Alors c'est pas les pavés de Paris-Roubaix, Jérôme, mais ça fait mal à tout le corps quand même ces pavés, surtout dans la montée des Champs-Élysées. Hein.
Ah oui, ça tabasse beaucoup, il y a beaucoup de trous, la montée, parce que c'est quand même un bon faux plat montant et rendu encore plus difficile par ces pavés qui sont irréguliers. Et puis de l'autre côté, dans la descente, là où se trouve actuellement le groupe de tête, et bien là il faut faire très attention car il y a des grosses irrégularités dans les pavés, et notamment sur le bas de la descente, des gros trous. Et on a vu par le passé, Michael Schérel, c'était une année cassé le bassin tout simplement dans cette descente des Champs-Élysées. C'est ça s'améliore pas avec le temps. On sait qu'il y a énormément de véhicules qui passent sur cette avenue, donc forcément elle est déformée, elle est beaucoup pratiquée, et ça n'avantage pas les coureurs. Et c'est pour ça aussi que certains utilisent le caniveau en marbre quand même. Hein, le
les derniers aussi. Kilomètres de la moto RMC dans la descente des Champs-Élysées, Georges.
Avec le groupe de 8 à l'avant où ça discute beaucoup, avec Jérémy Roy qui prend le relais dans ce groupe de tête, alors qu'on apprend l'abandon de Tony Martin, l'allemand de la formation ETX Quickstep. On avait vu un coureur ETX Quickstep arrêter, on ne sait pas ce qui s'est passé avec Tony Martin. En tous les cas, on est dans cette descente des Champs-Élysées devant le groupe de tête, et le peloton derrière où on voit est emmené par la formation Direct Energy de Brian Cocard, qui passe à l'instant. S'il regarde sur la gauche, il va voir tout un virage, enfin, en tout cas 20 mètres, où il y a tout son fan club qui est présent, son fan club qui est là 100 mètres après la ligne d'arrivée pour l'encourager tout à l'heure.
Information étonnante que nous donne Georges Quirino à l'instant même, l'abandon de Tony Martin, on n'en sait pas plus pour l'instant, frère.
Non, évidemment, tu as d'autres informations, Georges, parce que c'est vrai que c'est très très surprenant.
C'est Radio Tour qui vient de nous l'annoncer.
Ouais,
c'est
oui.
Radio Tour qui vient de nous annoncer dans l'oreille l'abandon du dossard de Tony Martin. On a vu un coureur ETX Quickstep qui était arrêté sur la montée des Champs-Élysées, ce n'était pas lui, c'était l'Argentin Maximiliano Riquese, et on nous a annoncé à l'instant l'abandon de Tony Martin. On n'a pas vu l'Allemand, on va voir si on le voit sur le circuit actuellement.
Okay.
En tous les cas, c'est lui que Radio Tour vient d'annoncer.
On va demander davantage de détails au staff de la formation belge ETX Quickstep, car c'est vrai qu'on a rarement vu un abandon sur les Champs-Élysées si près de l'arrivée finale du Tour de France. Lui qui a été un animateur.
Si, on a eu Eros Rastafumeto quand même.
Alors lui a été non partant, on le rappelle, au départ de Chantilly ce matin, parce qu'il a eu cette réaction de révolte contre la décision des organisateurs de faire arriver la course aux alentours de 19h-19h30. Pour Eros, 19h30 c'était l'heure de l'apéro. Et il ne voulait pas laisser les organisateurs lui dicter sa conduite. Lui qui a failli en terminer avec son 28e Tour de France, malgré les substances dont il abuse.
Il y a des choses auxquelles il ne faut pas toucher, Jérôme. C'est comme ça. Je veux dire, on comprend aussi la révolte du coureur.
Bien sûr. Moi, à mon époque, j'aurais fait pareil. Hein. J'étais contre cette arrivée. D'ailleurs, j'ai fait encore plus fort que Rastafumeto. Moi, j'ai arrêté ma carrière depuis qu'on arrive à 19h30. Hein. C'est pas possible. Il y a des traditions qu'il faut respecter. Et celle-là en est une.
Allez, Georges Quirino, les derniers hectomètres de cette belle aventure avec Marco sur les routes du Tour de France 2016.
Ouais. Eh ben, on est passé sous notre flamme rouge, Christophe, sur la rue de Rivoli, avec le groupe de 8 derrière nous qui vient de s'engager sur cette avenue barriérée, évidemment, avec tous les supporters qui sont là sur plusieurs rangées pour encourager les coureurs du Tour de France. On arrive sur la place de la Concorde et on prend le virage à droite, on sort du circuit, et ça va me permettre de remercier encore une fois notre motard Marc Comte, qui m'a guidé sur tout ce Tour de France. Quel cadeau, Marco.
Oh, quel
bravo, t'as fait un bon Tour de France.
Il a été bon.
T'es comme Christopher Froome, t'es comme ça.
Ah, il a pas tout à fait le même physique quand même que Christopher Froome. Hein. Ouais. Il affole beaucoup plus la jambe féminine que Christopher Froome. Ouais, et puis c'est pas le. Je pense pas qu'il pourrait rentrer dans le maillot jaune.
D'ailleurs, on a arrêté par une horde de femmes qui veulent arrêter la moto RFC.
Toutes de jaunes vêtues.
Parce qu'apparemment, il y a tout de même des personnes qui pourraient mal prendre.
Ouais. Bon, on t'embrasse, Marco. Hein. T'as pas été trop mauvais sur ce tour. Hein. On espère te retrouver l'année prochaine. Hein. Il a quasiment le même âge que Vincent Fumetto, même peut-être un peu plus vieux d'ailleurs.
Oui, il a plus.
Allez, on va s'interrompre quelques instants. 41 km de l'arrivée, 19 secondes maintenant d'écart entre.
J'ai peut-être une information sur Tony Martin.
Tony Martin qui a, je confirme, de son attaché de presse, de directeur sportif aussi de l'équipe Quickstep. Tony Martin qui a bel et bien abandonné.
On n'a pas la raison. Peut-être après la pause, ouais. On l'espère.
Allez, à tout de suite pour les derniers kilomètres de ce Tour de France. 40 km encore à parcourir et ce sera la quille pour les coureurs du peloton.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Les 40 derniers kilomètres de ce Tour de France 2016, le peloton qui se trouve sur les Champs-Élysées avec quelques passages encore à effectuer sur ce magnifique circuit, le circuit le plus prestigieux du monde, évidemment, sur la plus belle avenue du monde, n'hésitons pas à le dire. Les Champs-Élysées baignés de soleil aujourd'hui et quelques hommes qui ont pris quelques mètres d'avance sur l'avant-garde du peloton, Fred. Combien sont-ils ?
8 coureurs à 39 kilomètres de l'arrivée, on est dans le 3e tour du circuit des Champs-Élysées alors qu'il y a 8 tours à parcourir, on vous le rappelle, 39 km à parcourir et 8 hommes échappés, 3 Français, Brice Feillu, Alexis Goujard et Jérémy Roy également présents, le champion d'Érythrée Daniel Tecklaymanot, Rui Costa le Portugais, ancien champion du monde, l'Allemand Marcus Burgart, l'Américain Lawson Craddock de l'équipe Cannondale et un Tchèque Jan Bartha de la formation Bora Arkon 18-22 secondes d'avance sur un peloton qui est emmené non pas par les Sky de Christopher Froome mais par la formation Direct Energy de Brian Coquard. Brian Coquard, on vous le rappelle, deuxième de cette même étape des Champs-Élysées l'an passé et qui met son équipe à la barre un peu tôt au goût de Cyril Guimard, on l'a entendu il y a quelques instants.
Oui, Cyril fâché avec la tactique déployée par la formation Direct Energy.
Fâché, non, mais il y a, après tout c'est leur problème hein, s'ils veulent pas gagner c'est leur problème, mais bon vous n'avez qu'un loto, vous avez qu'un Quickstep et nous on va se la péter devant avec pratiquement toute l'équipe de Coquard où il va avoir besoin d'équipiers, c'est dans le dernier tour pour venir le placer. Et là, effectivement, tous ceux qui prennent du vent maintenant, ils regarderont le sprint en passant de l'autre côté.
Alors, notre ami Dédé, et là, lui aussi, on l'a cherché quand même pendant 3 semaines, et il est arrivé enfin sur les Champs-Élysées.
Eh oui.
J'ai eu peur que les bonnes habitudes
pour la dernière.
On a vu que ce n'est pas le maillot jaune qui est passé en tête tout à l'heure sur la ligne d'arrivée des 8 passages. Quand même, il fallait que le jingle soit là pour accueillir notre Dédé national de l'Assemblée des départements de France. Comment ça va, André ?
Ça va bien, ça va comme quelqu'un qui a terminé ses 3 semaines et qui va rentrer à la maison aussi.
On n'a pas beaucoup vu le gros Léon sur les Champs-Élysées.
Il y était tout à l'heure, j'ai fait un pataquès pas possible. Vous étiez très concentrés tous et malheureusement, vous ne m'avez pas vu. Si, on fait comme d'habitude notre petit défilé sur les champs avec l'ensemble de nos véhicules, en particulier cette belle balayeuse qui n'a pas servi énormément cette année, avec une météo qui était pour nous pas terrible, mais qui a limité tous les problèmes de reçoivage et les problèmes de balayage à faire, puisque il faisait chaud, mais 3 jours avant et pendant 3 jours il pleuvait.
Ouais, bon, enfin, il y a quand même eu quelques bousses de vache.
Il y a eu quelques bousses de vache à retirer ici ou là, mais c'est un tour pour nous qui a été beaucoup plus calme que prévu.
Attention Dédé, excuse-moi, on est à 37 km de l'arrivée, rassurez-vous, tout va encore très bien pour l'ensemble du peloton, excepté Tony Martin, le coureur allemand de l'équipe Etix Quickstep qui a abandonné, on vous le rappelle, il y a quelques instants, mais un coureur est en train de changer de vélo, puis à nouveau de changer de roue, dépannage à rallonge pour Marcel Kittel, le sprinter allemand qui vise aujourd'hui sa deuxième victoire d'étape sur les routes du Tour 2016, vainqueur d'étape à Limoges, qui a tout à gagner aujourd'hui, qui a coché cette étape comme l'ensemble de ses rivaux sprinteurs que sont Greipel, Christophe ou Brian Coquard. Et là, il vient de jeter sa roue, la roue arrière, de colère parce qu'il a été mal dépanné par son équipe Etix Quickstep. Tout va mal au sein de la formation belge. À quelques minutes après l'abandon de l'Allemand Tony Martin, il met pas loin d'une minute à repartir, Tony Martin. Un dépannage galère s'il gagne tout à l'heure sur les... Marcel Kittel, s'il gagne tout à l'heure sur la ligne d'arrivée, ce sera un petit exploit parce que déjà premier gros boulot pour lui et pour ses équipiers, réintégrer l'arrière du peloton.
Et en plus, il n'a même plus Tony Martin pour l'emmener dans sa roue. On sait que Tony Martin est un formidable rouleur et on rappelle, il a abandonné victime d'un problème au genou il y a de cela quelques minutes. Dédé, donc un peu moins de travail cette année.
Moins de travail cette année avec une météo qui était quand même changeante. Il fait chaud puis il fait froid avant, donc les routes ne transpirent pas, elles ne s'abîment pas, elles ne se dégradent pas. Donc tu disais quelques bouses de vache, bien sûr, plus pour l'anecdote que pour autre chose. Et puis des gravillonnages dans les descentes des cols, en particulier dans les Pyrénées. Sinon, cette année, c'est quoi? C'est 10 000 litres d'eau pour la balieuse, alors qu'on a pu monter quasiment à 100 000 sur certaines années où il faisait très chaud. Donc on est sur en gros.
J'ai jamais bu aussi peu d'eau pendant
3 semaines. Eh bien. Il va falloir que je me refasse une santé pendant l'été.
Bon, est-ce que sur les Champs-Élysées, il y a un passage de la balayeuse aussi?
Ça n'est pas la même. Ça n'est pas la même. On ne passe pas notre gros Léon. Ce que l'on passe, c'est des balayeuses locales, celles de la mairie de Paris, les aspiratrices de
J'en ai rencontré des belles aspiratrices toutes vertes.
Exactement, qui passent juste avant que tout soit barriéré et fermé. Donc c'est un balai qui va continuer d'ailleurs après le passage du tour, quand tout sera démonté, tout sera nettoyé et la route est la plus belle avenue du monde restituée au public.
Un balai dont on ne dira pas où il finira, évidemment.
Et bien sûr, c'est bien connu.
Merci André de nous avoir accompagnés.
Merci à vous.
Rendez-vous l'année prochaine.
Oh bah ma foi.
A priori, on
bien,
sera encore là.
Oh bah, si tu y es, je pense que j'y serai peut-être aussi. Alors.
Je suis pas sûr qu'on reprenne là-dedans, mais on se posera la question. on y réfléchira tous les deux parce qu'avec ces blagues, quand même, on sait pas.
Ouais, l'histoire du balai.
Mon petit Fred, justement, c'est peut-être le dernier tour de route sur le Tour de France. Donc tu vas nous raconter ce qui se passe.
Alors j'en profite, effectivement. 34 km à parcourir, 8 coureurs échappés, les Français, Brice Feillu, Alexis Goujard et Jérémy Roy, l'Érythréen Daniel Tekleimanoff, le Portugais Rui Costa, l'Allemand Marcus Burgart, l'Américain Lawson Craddock et le Tchèque Yann Barta. 34 km à parcourir, 20 secondes d'avance, écart stabilisé pour ces 8 hommes de tête. Ce sont toujours les Direct Energy qui emmènent le peloton, les Direct Energy qui travaillent pour Brian Cocard qui avait terminé deuxième l'an passé ici même sur les Champs-Élysées. Mais le fait marquant des dernières minutes, c'est cette crevaison de Marcel Kittel, le sprinter de la formation Ethics Quickstep, qui a mis plus d'une minute à repartir. Marcel Kittel, fou de rage, il a d'abord changé de mélo, il a essayé de repartir avec le mulet et il a vu que le mulet n'était pas bien réglé ou pas au point. Il a redemandé le vélo qui avait la roue arrière crevée. Du coup, on a dû changer la roue arrière. Il a enlevé lui-même la roue arrière, il l'a balancé. La roue arrière a rebondi et du coup est allé taper la voiture de directeur sportif de la formation Yann Cycling. Et il est reparti loin, très loin, Marcel Kittel, en cognant à plusieurs reprises sur son cintre, sur son guidon. La rage de Marcel Kittel qui là est bien au chaud à l'arrière de sa voiture Ethics Quickstep. Je suis pas sûr que ce soit quand même très régulier ce qu'il est en train de faire, Marcel Kittel. Mais la rage, l'adrénaline est déjà là. Il n'a pas besoin d'attendre le dernier kilomètre, Marcel Kittel, pour faire monter les tours.
Il va perdre beaucoup de plumes.
Mais là, il est dans une situation un peu délicate, c'est-à-dire qu'il est complètement à l'arrière de sa voiture alors qu'il y a des cassures. C'est limite au niveau réglementaire.
Il est à une minute du peloton, Marcel Kittel. Une minute, la galère a commencé pour réintégrer l'arrière.
Et surtout, il n'a aucun équipier qui l'ont attendu.
C'est assez surprenant.
Tant qu'il y a la voiture, il n'y a pas de raison que les équipiers l'attendent. Le règlement, on le rappelle, c'est que la voiture a le droit de le ramener jusque l'arrière de la dernière voiture de la file des directeurs sportifs.
Non.
Bon, mais vous savez qu'on a changé les règlements sur ce Tour de France.
Ce n'est pas le règlement, effectivement. Les commissaires ont l'habitude et pour consigne de réaliser ce que l'on appelle un barrage devant le coureur attardé. On ne permet pas à la voiture du directeur sportif d'emmener dans son coffre le coureur, mais dans les faits, sur les courses cyclistes, c'est comme ça que ça se passe. On réintègre l'arrière de la file des voitures suiveuses et après, eh bien, on on est effectivement épaulé par des équipiers lorsqu'on est leader, lorsqu'on est sprinter, spécialement un jour de Champs-Élysées comme c'est le cas aujourd'hui. Il reste 32 km à parcourir. Les 8 hommes de tête ont toujours 22-23 secondes d'avance sur le peloton.
Et quoi qu'il en soit, ce sera compliqué pour Marcel Kittel, même s'il parvient, Cyril, à réintégrer l'arrière du peloton avec tous les efforts qu'il va devoir faire pour réintégrer cette arrière.
Non, là pour l'instant, il ne fait pas d'efforts, il fait du derrière voiture.
Bon, d'accord. Okay. Donc, il ne perd pas de force. Allez, on va se retrouver juste après les infos de 19h. Et oui, parce qu'on approche de 19h et on approche également de l'arrivée finale de ce Tour de France 2016. 32 km à parcourir, 23 secondes d'avance donc pour les 8 hommes de tête. Et on rappelle que Marcel Kittel, lui, navigue avec un retard d'environ 1 minute derrière le peloton.
RMC Intégral Tour.